Bravo et merci à toutes celles et tous ceux qui sont là aujourd'hui, parce que, comme on dit, un week-end de l'Ascension, traditionnellement, Bordeaux peut se vider d'une partie de ses habitants. Mais j'allais dire, quand on a la chance de prolonger les vacances de l'an passé, ou le mois de juillet, le mois d'août de l'an passé, sur France Inter, en écoutant Régis Debray, un week-end d'Ascension, eh bien, on n'a aucune raison de s'en priver si on peut être là. Donc, merci Régis Debray d'être présent à Station Ozone. C'est un lieu que vous découvrez, je crois, même si vous avez eu l'occasion de venir très souvent à la librairie Mola. On aura l'occasion d'y revenir.
Alors, remercier notre public de ne pas être au bord de la mer. D'abord.
C'est ça, voilà, voilà.
Mais je trouve qu'ils ont fait un effort considérable.
Le lieu est à l'ombre. Alors, on va passer du temps ensemble pour évoquer ce remarquable petit livre, Régis Debray, Un été avec Paul Valéry, qui est donc aux éditions Équateur Parallèle et France Inter, la reprise de ce moment particulier qui était, si je me souviens bien, pas longtemps avant 8 heures, l'été dernier sur France Inter. Ça fait suite aux grandes, à la série des étés avec des auteurs. Il y a eu comme ça Jean de La Fontaine et d'autres antérieurement. Quelques mots sur Paul Valéry, parce que ce n'est pas forcément quelqu'un dont la biographie nous est immédiatement familière. Il est né le 30 octobre 1871 à Sète. Son père est corse et vérificateur des douanes. Mais dites-vous, Régis Debray, dans le livre, il ne parle pas la langue. Sa mère est italienne, elle est génoise, elle est fille d'un consul d'Italie. Et puis, on franchit la vie de Valéry, 20 juillet 1945, obsèques nationales à la demande du général de Gaulle. Obsèques nationales, ce n'est pas simplement un hommage national. C'est vraiment protocolairement un événement extrêmement important. On va y revenir. C'est l'objet du chapitre 9 de votre livre que vous intitulez « La nuit fatidique », page 45. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1892, c'est le bouleversement de la fameuse nuit effroyable de Gênes, alors qu'il séjourne chez sa tante, tandis que l'orage se déchaîne à l'extérieur. Valéry affirma avoir traversé à la fois une grave crise affective. Il reconnaît l'inanité de l'amour, particulièrement celui qu'il éprouve depuis plusieurs années pour Madame de Rovira. Bon, il n'est pas très vieux, hein, il a 19 ans, alors un peu plus de 20 ans, pardon. On peut reconnaître l'inanité de l'amour. Et il a une illumination intellectuelle, ça c'est à noter, qui lui révèle, dit-il, l'imperfection des espérances de sa propre poésie. C'est ce qu'on appelle la naissance du Valéry Valérien, et débute en 1894 une expérience unique qui est celle des cahiers jusqu'à sa mort en 1945. Il est à sa table de travail dès 5 heures du matin, tous les jours, et sur ses cahiers, dit-il, je n'écris pas mes opinions, mais j'écris mes formations. Il a laissé, dites-vous, et rappelez-vous, cher Régis, 265 cahiers, 30 000 pages, le CNRS en a fait une édition en 29 volumes de 26 000 pages, publiée entre 1957 et 1961. Alors, quelques faits marquants, moi, sur la fin de sa vie. Entre 40 et 44, il refuse de collaborer, alors qu'il est secrétaire de l'Académie française. En février 41, il prononce l'éloge funèbre du juif Bergson et préface le journal d'Hellenberg, qui est, dit-on, la petite Anne Frank française, qui mourra à Bergen-Belsen en avril 45, après avoir été déporté à Auschwitz en mars 44. On peut commencer par cette question très large. Est-ce qu'on peut dire, cher Régis Debray, est-ce qu'il est abusif de dire que Régis Debray fut une conscience nationale, parce que Régis Debray, lapsus intéressant, que Paul Valéry est une conscience nationale.
Vous me rassurez.
Oui. Et page 59, on vous lit, si l'on donne au terme, vous écrivez, si l'on donne au terme d'intellectuel son sens exact, le lettré animé d'un projet d'influence et qui s'évertue à rendre public son opinion privée sur le terrain du monde à intervalles plus ou moins réguliers, Valéry ne fait pas partie de cette élite.
Non, Valéry n'était pas un abstentionniste, mais n'était pas non plus un interventionniste dans la vie publique. D'abord parce qu'au début, il se définit comme un poète. Et cependant, il est dans un milieu, dans sa jeunesse, très antisémite, et donc ce sera la faute de sa vie, comme il le dit. Il signe la pétition pour l'érection d'un monument à la veuve du colonel Henri, c'est-à-dire c'est un anti-Dreyfusard. Bon. Mais c'est sa jeunesse, c'est son milieu. Et après, il s'adonnera à la poésie, mais à la fin de la Première Guerre mondiale, il se met à s'intéresser à la vie internationale. Et il devient une sorte de commis-voyageur de l'Europe, enfin, de l'Union européenne, et il prononce des conférences, il publie des articles qui lui acquièrent une très grande autorité morale, pas politique, encore que tous les politiques veulent absolument déjeuner ou dîner avec lui. Je ne dirais pas se faire prendre une photo, c'est ce qu'on ferait aujourd'hui, mais dire qu'ils ont déjeuné ou dîné avec Valéry au Quai d'Orsay ou dans les ministères. Quoi qu'il en soit, Valéry devient un peu, à son corps défendant, comme vous dites, une autorité, en tout cas une personnalité considérable, au point que Jean Moulin, se promenant au Trocadéro avec Daniel Cordier, ils évoquent ce que pourrait être la République après la Libération. Et Jean Moulin dit, au fond, il faudrait que Paul Valéry soit président de la République. C'est vous dire à quel point, d'abord, l'importance du fait littéraire à l'époque, c'est absolument incroyable de penser à, comment dirais-je, un pur littérateur qui n'a jamais eu aucun mandat, qui n'a jamais appartenu à un parti, qui n'a jamais pris fait et cause, d'ailleurs, pour telle ou telle opinion ou mouvance. Jean Moulin pense qu'il a l'autorité morale et intellectuelle pour être un président de la République façon Troisième République. Hein. Bien sûr, De Gaulle aurait été Premier ministre, je vous rassure. En fait, présidente du Conseil. Mais donc, c'est vous dire à quel point il avait ce rayonnement, et Jean Moulin lui-même connaissait de très près les poésies de Valéry, et il a dit à Daniel Cordier, quand il a visité sa chambre et qu'il a vu « Regard sur le monde actuel », il a dit « Valéry affronte tous les problèmes que nous devons affronter aujourd'hui. » Il les a prévus. C'est vous dire à quel point l'homme était respecté. Et aujourd'hui, évidemment, on l'a mis dans une sorte de congélateur académique. Vous me direz que c'est pas mal un congélateur par un temps de canicule, mais on l'a désamorcé, on en a fait un classique un peu austère, un peu froid, et comme si on ne voulait pas qu'il dérange, quoi. Parce que c'est très subversif, Valéry. Alors c'est très décapant, intempestif et prémonitoire. Autrement dit, c'est pas un auteur facile à tous les sens du mot. Il prend à rebrousse-poil beaucoup d'idées toutes faites, et il a, je dirais, quelque chose de très tranchant, comme ça. Pour moi, c'est un lanceur d'alerte, Valéry. C'est un lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il a...
L'expression, oui.
Il a prévu un peu tout ce qui nous est arrivé avec 30 ou 40 ans d'avance.
Alors, on va rentrer un peu dans les...
Je parle là du prosateur.
Oui. Alors justement, à propos du prosateur, dans un... Le livre est une succession de courts chapitres qui correspondent aux chroniques qu'on a pu entendre. Et le chapitre 31 est intitulé « Péripéties ». Ce chapitre est vraiment intéressant parce que c'est un petit peu la manière avec laquelle vous avez... aborder l'œuvre de Valéry, mais c'est aussi une réflexion sur la trace ou ce que laisse un auteur ou un écrivain à ses lecteurs et à l'histoire. Vous dites « Le Valéry qui nous est proche, c'est le plus tremblé et le moins sculpté. » Et vous ajoutez « C'est la règle commune, il faut s'y faire et cela ne manque pas de piquant. Le temps permute les places du dur et du mou. » Comme si ce que le malheur d'être arrache au petit hasard à un artiste le fait rester parmi nous quand ce qu'il aura longuement travaillé l'expédiera bien malgré lui en sous-sol dans la réserve des livres rares. Alors, dans cette œuvre on peut dire monumental, dans les 30 000 pages des cahiers, mais il y a aussi la poésie, même si vous avez plutôt travaillé, évidemment, vous avez dit, sur la prose. Comment vous avez fait votre choix, parce que c'est terrible, de faire rentrer dans la fameuse case du format.
Je crois que Valéry était un personnage double, je ne dirais pas schizophrène, mais qu'il y a un Valéry officiel, qui est celui, je dirais, des sujets de dissertation pour le baccalauréat, celui dont on met les aphorismes sur le Trocadéro en lettres d'or. Ça, je dirais, c'est le Valéry académicien. Et puis, il y a un Valéry qui est un drôle de Lascar, c'est-à-dire un Valéry qui se dit ennemi du tendre, c'est-à-dire ennemi du sentiment. Il a même ce mot, il dit au fond, qu'est-ce que l'amour, c'est être bête ensemble, alors que l'amitié, c'est être intelligent ensemble, pour vous dire un peu ses sentiments. Et cet homme était un amoureux fou. Oui. Il avait, on a de lui une correspondance, on a de lui indirectement un journal, parce que ça, le grand amour de sa vie, Catherine Pozzi, a laissé, elle, un journal assez, comment dirais-je, assez cru. Et Valéry, au fond, a été un poète intimiste, très charnel, alors qu'on le disait très intellectualiste, avec un mélange, si vous voulez, ce qu'il y a de formidable chez Valéry, c'est la sensualité de l'intelligence, n'est-ce pas ? Cette rythmique, cette douceur, au fond, oui, il a inventé l'idée musicale, si vous voulez. Hein, bon. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, effectivement, enfin, ce qui m'intéresse pas seulement, mais j'ai découvert l'autre Valéry, d'abord parce que je suis quelqu'un de mon époque et que notre époque n'aime pas l'emphase, le discursif, l'officiel. Notre époque cherche spontanément le spontané.
Le court, oui.
Le court et surtout l'involontaire. Autrement dit, non pas la comédie, mais l'intimité du comédien. Et donc, on est de plus en plus tourné vers le journal, vers la correspondance. C'est peut-être la correspondance de Sartre et de Beauvoir. Ça peut être les journaux intimes de Paul Morand ou Drieu La Rochelle, mais je pense même à la correspondance de Louis Althusser, le philosophe. Et c'est vrai qu'on aime surprendre quelqu'un là où on ne l'attend pas et là où l'auteur ne s'attend pas lui-même, parce que un auteur serait toujours très étonné de savoir ce qui reste de lui. Quelqu'un comme on ne lit plus les Natchez de Chateaubriand. Mais on lit les mémoires d'outre-tombe, qui étaient pour lui un complément d'information, n'est-ce pas ? Et donc, il y a notre goût un peu du trou de serrure, si vous voulez. Et Valéry mérite le trou de serrure, car en fait, il a eu des liaisons tempestueuses, comme on dit.
Parce qu'il se présentait comme, évidemment, chaste, mais aussi très fidèle avec femme et enfant.
Alors, il n'a jamais voulu divorcer, non. C'était ce qu'on pourrait appeler un bon bourgeois, mais qui était toujours une sorte d'homme dédoublé. D'ailleurs, il disait lui-même, vous l'avez dit, il répartait ses journées en deux. Le matin, levé à 5 heures, café, cigarette, travail. Et puis, il s'arrêtait vers 10h, 11h, et après, il s'accordait le droit d'être idiot. C'est lui qui le dit. Il s'accordait le droit d'être idiot, c'est-à-dire d'aller dans les réceptions, les déjeuners, enfin, on le nommait président de tout, à peu près, hein, du pen club, de la radio.
Et il disait oui à tout.
Pardon ?
Il disait oui à tout.
Alors, il disait oui à tout, oui, il dit, à la fin, je suis cerné, je suis entouré, je suis comme un atoll, disait-il, entouré d'un océan d'obligations. Et en fait, on pourrait penser à une certaine vanité, mais il n'était pas vaniteux du tout. Il se moquait de ses propres... Il se moquait de son rôle. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui, au fond, qui se foutait de lui-même. C'est-à-dire qui se... qui n'était pas dupe de l'officialité, même si tous les ministres, tous les présidents du Conseil voulaient absolument le voir, même s'il a eu un rôle très important dans la société des nations. Donc voilà, ce dédoublement de l'homme m'a beaucoup attaché. Et comme il se trouve que j'ai connu le fils de Catherine Pozzi, qui était Claude Bourdet.
C'est Claude Bourdet, oui. Vous pouvez en dire un mot, parce que c'est un personnage...
Bah, Claude Bourdet, donc, est le fils de cette très belle et très intelligente Catherine Pozzi, qui est morte de tuberculose.
En 34.
Hein. En 34. Et elle avait un fils unique. Elle avait été mariée avec Édouard Bourdet, l'homme de théâtre. Elle a eu un fils qui s'appelle Claude Bourdet, qui a été le chef d'un réseau de résistance, de libération, je crois.
Et fondateur de combat.
Fondateur de combat, et il était passé par un camp de concentration. Et il est devenu une figure, disons, fondateur du Nouvel Observateur. Il est devenu une figure, disons, de la gauche intellectuelle.
Anticolonialiste.
Et morale. Il s'est beaucoup battu, oui, contre la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Et alors, il y a une anecdote curieuse qui fait que Valéry n'a pas été un collaborateur, mais il a rechigné à s'inscrire officiellement dans la résistance.
Comme Gide.
Comme Gide, exactement. Il a eu exactement. Et alors, il se trouve que c'est Claude Bourdet, oui, envoyé par Jean Moulin, parce que Jean Moulin, vers 42-43, dit que ce serait bon tout de même que les grandes figures rallient le général de Gaulle. Et alors, Claude Bourdet va voir Paul Valéry, et Valéry lui dit « Oui, écoutez, je suis tout cœur avec vous, mais c'est moi qui ai reçu le maréchal Pétain à l'Académie française. »
En 31. Ouais.
Donc, Pétain n'est pas un ami, mais enfin, ça me gênerait de... Bon, cela dit, il a, comme vous dites, il s'est manifesté, oui, pour Bergson, comme vous avez bien dit.
Il a été viré du centre universitaire de Nice.
Il a été viré du centre qu'il avait fondé. Non, il n'a eu aucun contact avec la collaboration avec Vichy, mais il était un peu fatigué à ce moment-là, et plutôt une certaine réserve avec l'engagement politique, si vous voulez. Voilà.
Alors, on va aborder l'aspect tout à fait passionnant chez Valéry, qui est ce rapport au monde. Vous dites qu'il a toujours eu la capacité à mettre le doigt dans la plaie avant qu'elle ne saigne. Une belle formule, évidemment.
C'est extraordinaire, oui. C'est un médium, un peu. C'est-à-dire qu'il a l'art de deviner ce qui va se passer.
On va venir à ça, oui, parce que c'est assez étrange. Mais... Alors d'abord, au début de votre ouvrage, il y a un rapprochement que j'ai trouvé tout à fait intéressant avec Camus, à propos de ce que vous appelez la pensée de midi. Cette pensée de midi est chère à Camus, l'Algérois, qu'on retrouve dans un certain nombre de textes, y compris les premiers textes de Camus, magnifiques d'écriture comme Nos. Vous dites « Valéry est de ceux qui ont donné sa pleine noblesse littéraire et morale » à ce qu'on pourrait appeler l'âge de la Méditerranée, auquel succéderont au XXe siècle le temps de l'Atlantique, puis celui de l'océan global au XXIe siècle. Et c'est, vous rapprochez cela, de l'exergue du cimetière marin, emprunté à Pindare, « N'aspire pas, ô mon âme, à la vie éternelle, mais épuise tout le champ des possibles. » Et ce qui est tout à fait étonnant, effectivement, chez Paul Valéry, c'est qu'il est plutôt, on va dire, orienté vers le sud, et pas à l'est, et pas au nord, comme vous dites, et pas non plus d'ailleurs à l'ouest.
Oui, quand Valéry dit en 1919, c'est-à-dire il y a 100 ans exactement, la fameuse phrase « Nos autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, et que, comme d'autres, comme Alexandrie, comme Ninive, nous pourrions un jour disparaître », lui, il pense à la civilisation méditerranéenne. Et la civilisation méditerranéenne, pour lui, c'est l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, c'est la réunion de trois choses. La science grecque, le droit romain et la conscience chrétienne. Mmh. Et le christianisme avec saint Paul. Saint Paul est un méditerranéen. Bon, ouais. Il finit à Rome. Donc pour lui, la Méditerranée, c'est le berceau, c'est le centre névralgique, c'est la matrice de ce qu'il appelle l'esprit européen. Et il restera toujours, d'ailleurs, un homme du Midi. Il a des attaches par sa mère avec la Corse, avec l'Italie. Le cimetière marin, ce toit tranquille où piqueraient des phoques, bon, bah, c'est évidemment la Méditerranée. Il est de cette, comme Brassens, d'ailleurs. Et Brassens le cite parfois dans ses chansons. Et c'est pourquoi il considère que quand il dit à l'écrivain anglais Eliot en 1945, avant de mourir, « L'Europe est finie », ça peut paraître une bourde. Pas du tout. Parce qu'il a compris que son Europe à lui était maintenant assujettie ou marginalisée par la victoire des anglo-saxons. On va aller vite. Hein, voilà. Donc il a compris qu'il y avait un renversement des rapports entre l'Amérique et l'Europe, c'est-à-dire qu'il voyait, il a toujours vu les États-Unis, dit-il, comme une nation développée, comme déduite de l'Europe, c'est-à-dire comme une projection de l'Europe. Et il devine, en 1945, que ça va être l'inverse, c'est-à-dire que l'axe de la civilisation occidentale va franchir l'Atlantique et que l'Europe va devenir, non pas un satellite, mais une sorte de dominion, c'est-à-dire non plus... la mère de l'Amérique, mais la fille de l'Amérique. Donc il y a une perte pour lui, il ressent ça. Et alors,
la fille est moitié la marâtre aussi. Hein.
Oui, mais il a tout de même senti, au fond, que l'heure de son Europe à lui était passée, c'est-à-dire l'Europe, l'Europe classique, j'allais dire l'Europe du latin grec. L'Europe d'une certaine culture rationnelle, lumineuse, dialectique, si on veut. Valéry n'aime pas les ténèbres, Valéry n'aime pas les crépuscules. C'est l'homme de l'aube, c'est l'homme du soleil qui se lève, c'est l'homme de la raison, donc l'homme, disons, de la lumière méditerranéenne. Et au fond, l'histoire lui a donné raison, parce que si vous voyez aujourd'hui tous les centres névralgiques de l'Union européenne, ils sont au nord. Que ce soit Strasbourg, le Luxembourg, Francfort, le nord a pris le pouvoir sur le sud. Le sud est devenu le Club Med. Hein. Bon. Et ça, pour Valéry, c'était absolument... c'était une blessure. Enfin, il ne l'a pas vécu, mais il le pressentait, n'est-ce pas? Il a même été jusqu'à dire, en 1937, je crois, mais vous allez me corriger, l'Europe n'aura pas eu la politique de sa pensée. Au fond, c'est un Européen déçu, c'est un Européen désillusionné.
Alors qu'il œuvre, par exemple, pour la création d'un comité des arts et des lettres à côté de la SDN. Et d'ailleurs, pour lui, la capitale d'Europe, c'est Genève.
Ah oui, c'est pas Bruxelles, c'est Genève. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez à Genève, c'est une ville francophone. Vous allez à Bruxelles, c'est une ville anglophone. Et donc, c'est vrai que l'Europe n'est plus la même. Disons que le Nord industriel et financier, adossé aux États-Unis d'Amérique, et a aujourd'hui l'hégémonie sur son Europe à lui. Ce qui, il l'avait pressenti dès avant la guerre, il a dit, l'Europe aspire manifestement à être gouvernée par une commission américaine. C'était pas mal comme pressentiment, puisque la Commission européenne parle anglais, comme vous savez, et elle pense en anglais. Donc, voilà, c'était un homme perspicace. Hein. Et alors, l'épreuve de sa perspicacité, c'est sidérant. Moi, il y en a une qui m'a... Il faut dire que Valéry n'était pas du tout, je dirais, le poète dans sa tour d'ivoire. Il respectait Mallarmé, mais il n'était pas Mallarmé, hein, parce qu'il a été secrétaire général du directeur de l'agence France-Presse, enfin, il s'appelait l'agence Havas. Mm-hmm. Donc il acquiert très vite une culture politique, et notamment une culture en politique étrangère extrêmement subtile.
Vous dites que ça va même en faire une sorte de journaliste transcendantal.
Oui, parce qu'il va en Angleterre très tôt, il est au courant de la politique anglaise en Afrique, il apprend les rapports de force. Mais il les subodore. Il y a un texte de Valéry hallucinant, l'un de ses premiers textes, qui s'appelle « La conquête méthodique », qui est en fait la conquête allemande, 1897, je crois. Hein, ou 1897, il prévient les Anglais messieurs, vous allez devoir vous battre avec les Allemands.
Ah bon ?
Oui, parce que non seulement les Allemands construisent une flotte qui va concurrencer
la Royal Navy,
la vôtre, mais il appelle ça la conquête méthodique. Et il fait une analyse de la psychologie, de la mentalité, de l'âme allemande. Je dirais qu'on peut la transposer. Aujourd'hui, il n'y aurait pas grand-chose à changer. C'est-à-dire que l'Allemagne, pour lui, c'est la méthode. C'est-à-dire la discipline, la ponctualité, le primat du groupe sur l'individu. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de génie, mais c'est une machine impeccable. C'est-à-dire, ce sont des gens sérieux qui vont jusqu'au bout et qui le font avec une rigueur extrême. Et au fond, l'analyse qu'il fait de l'Allemagne, dont il sait qu'elle va, cette méthode allemande va s'appliquer à la chose militaire, il subodore qu'elle pourrait s'appliquer à la chose économique un jour. Donc il y a là, si vous voulez, une étude de psychologie collective, si vous voulez, qui me semble très actuelle.
Alors, et dans ce même texte, il prévoit même la confrontation avec trois puissances.
Ah oui, étonnant.
Il dit trois jeunes nations qui poseront problème dans le futur. On est 40 ans avant la constitution de l'Axe, l'Italie, l'Allemagne et le Japon. De la même manière qu'en 1995, deux ans plus tôt, il évoque le réveil de l'Asie et qui préfigure la défaite russe de Port Arthur face au Japon en 1905. C'est vrai que oui, c'est très troublant.
Alors, pourquoi les jeunes nations, ils sentent que les jeunes nations, un, elles veulent prendre leur place, deux, elles acquièrent la technique des puissances dominantes, et donc elles vont allier la capacité technique avec l'élan national, l'élan impérial, sans la retenue qu'ont les vieilles puissances, comme l'Angleterre et la France, et il fait effectivement ce pronostic qu'on va avoir des difficultés avec le Japon, l'Allemagne et l'Italie. Parce que l'Allemagne était un jeune État à cette époque.
Bien sûr, et l'Italie aussi, de fait.
Voilà. Et donc, aussi, il a ce qu'on appelle le basculement vers le Pacifique, il l'a pressenti, puisque la défaite de la Russie vis-à-vis du Japon, il extrapole, n'est-ce pas, et il dit, bientôt, il y aura un réveil de l'Asie, et nous allons, nous, Européens, au fond, redevenir ce que nous sommes, c'est-à-dire peu de choses. Le cap de l'Asie, péninsule, et on va redevenir ce qu'on est.
Voilà. Alors, cette préscience, on peut dire, parce que vous dites à un moment, vous dites, il est clair qu'il n'a pas la... Il n'a pas de don magique, hein. Il ne lit pas dans le mar de café.
Non, c'est pas Madame Soleil.
C'est pas Madame Soleil, clairement. Elle est d'autant plus surprenante qu'il dit qu'on n'apprend rien de l'histoire. Il a des paroles à l'égard des historiens, qui fait qu'il va quasiment se fâcher avec eux tous. Il a la fameuse phrase qui dit, il a des élèves de Jean-Jean de Sailly, on entre à reculons dans l'histoire. Alors, d'où tire-t-il ces...
Il pense que l'histoire est une fausse science, c'est-à-dire qu'elle peut enseigner n'importe quoi, qu'elle rend les nations vaines, orgueilleuses et dangereuses, qu'elle enivre les peuples. Et il dit ça d'un point de vue, parce que c'est un homme des sciences exactes. Il n'aime pas le flou. Il n'aime pas ce qu'il appelle les mots qui chantent plus qu'ils ne parlent. Et donc, c'est un homme très proche des mathématiques.
Henri Poincaré.
Voilà, il a fait des études de physique. Et les historiens, c'est pour lui un peu des prestidigitateurs, des faiseurs, des magiciens. Donc, c'est la science, dit-il, de ce qui ne se répète pas deux fois. Il n'y a de science que ce qui est répétable, de ce dont on peut refaire l'expérience n'importe où, n'importe quand. Cela dit, c'est peut-être vrai ce qu'il dit, mais en ce qui le concerne, c'est absolument faux. C'est absolument faux parce que il y a un mot de De Gaulle là-dessus. Dans les chaînes qu'on abat, vous savez, cette conversation avec Malraux de 69, il parle de Valéry et De Gaulle dit à un moment, mais alors, c'est vrai que Valéry n'aimait pas l'histoire, mais dit De Gaulle, il en a fait des interprétations remarquables. Et il dit, entre l'histoire et Valéry, c'est une querelle de ménage. C'est joli. Ouais. Et oui, ce qui veut dire que de Gaulle admirait beaucoup Valéry.
Ça se voit dans le retour qu'il
C'est un des tout premiers qu'il invite au ministère de la guerre quand il arrive à Paris en 1944. Mais c'est vrai, c'est une querelle de ménage, parce qu'en fait, il y a une perspicacité historique chez Valéry qui est extraordinaire. Et je dirais une perspicacité médiatique. Par exemple, il annonce en 1930, bien avant la télévision, la naissance de ce qu'il appelle des sociétés de distribution de réalité sensible à domicile, ce que nous appelons les chaînes de télévision. De même, dit-il, avec la radio, il dit, mais bientôt, il y aura des livres oraux, des livres pour écouter. C'est-à-dire qu'il annonce la naissance de ce qu'on appelle, vous savez, les livres auditifs, audio, les livres qu'on écoute dans la voiture, avec un truc. Et au fond, il dit... Alors, il est évidemment pessimiste. Là, j'ai oublié dans l'antichambre mon livre, mais il dit, vers les années 38-39, dans ce qu'il appelle le destin des lettres, il est assez pessimiste sur le destin des lettres. Il dit notamment que la lecture lente et méditative va disparaître. Parce que les gens doivent aller de plus en plus vite, ils n'ont plus le temps de lire, de se plonger dans un livre. Il va y avoir des lectures, dit-il, de picorage. Il dit d'ailleurs que la culture des personnes, c'est celle des journaux, c'est foutu. C'est foutu, c'est-à-dire il n'y aura plus une élaboration du langage. Autrement dit, il pressent qu'il va y avoir, au fond, un peu un déclin de l'hégémonie littéraire, si vous voulez, au bénéfice du son et de l'image. Dire ça en 37-38, c'est pas mal. Donc il avait cette sorte de flair étonnant. Alors moi, je crois que... j'ai une interprétation de cette extraordinaire acuité. C'est que Valéry n'est pas un militant. C'est-à-dire qu'il ne veut, il n'a pas une idée du monde tel qu'il devrait être. Au fond, il n'articule pas sa vie intellectuelle d'après un idéal d'une société parfaite. C'est-à-dire qu'il n'a pas, si vous voulez, un programme politique. Ce qui lui donne une acuité pour décrire simplement ce qui est, et non pas ce qui doit être. Chacun a une idée de la société telle qu'elle doit être, et en fonction de cela, on sélectionne, on crible, on juge. Mais lui, au fond, il a une sorte de naïveté déconcertante. Il n'a pas, si vous voulez, de projet de société. Et donc, il dit, moi, je polis mes instruments pour comprendre ce qui se passe. Sans anticiper, sans idéologie, dirait-on.
Si on devait paraphraser Raymond Aron, on dirait que Valéry est une sorte de spectateur dégagé.
Oui, effectivement, de spectateur intéressé, mais dégagé.
Et parce que vous avez tendance... Enfin, j'ai l'impression que vous dites que c'est plutôt un intellectuel échaudé.
Il a fait ce faux pas.
Voilà, c'est ça.
Enfin, il était très jeune.
Vous pensez que ça l'a définitivement vacciné ?
Non. Il n'a pas eu, comme Claude Lévi-Strauss, le terrible remords d'avoir été munichois.
C'est pour ça que vous faites
pas. Ce qui a fait que Lévi-Strauss a dit, moi, je n'ai pas un bon jugement politique, donc il ne fait plus de politique. Non. Jamais Valéry ne s'est engagé comme un Léon Daudet, comme...
Oui, bien sûr.
Il a simplement signé un peu par conformisme, parce que son entourage
était... Oui, et puis surtout la belle famille, enfin les rois qui étaient...
Les rois qui étaient ses amis étaient effectivement anti-Dreyfusard.
Et Degas aussi, d'ailleurs, Degas.
Non, mais...
Mais vous dites, pardon, chapitre 19, est-il bon, est-il méchant? Vous écrivez, et il est de quel côté, Valéry? Du côté pessimiste, incontestablement, donc conservateur, mais sans conformisme ni aucun sectarisme. On pourrait parler d'un ni-ni dans le principe et dans la pratique d'un hé-hé. Il récuse les deux bords, mais ne se fâche avec aucun. C'est une sorte d'anti-Macron, en fait. Ou alors un Macron serait un Valérien qui ferait de la politique.
Il pratique en même temps, Valérie.
Oui, mais il se fâche avec aucun des blocs.
Ah oui, non.
J'ai cru comprendre que
avec aucun des deux.
Macron, c'était
c'est-à-dire qu'il a des amitiés à gauche comme à droite. Alors, il n'aime pas l'emphase jaurésienne, si vous voulez. Il trouve que il y a une. Il n'aime pas cette éloquence, comment dirais-je, un peu solennelle, verbeuse, qu'ont certains tribuns de gauche, si vous voulez. Et parce que c'est un homme qui pèse ses mots, qui aime l'exactitude et la sobriété, n'est-ce pas? Et ça ne l'empêche pas de recevoir un peu tout le monde chez lui. Donc on a aussi bien sur lui des réflexions de Brasillac que de résistant, je veux dire, voilà. C'est pas chez lui de l'opportunisme, c'est qu'il écoute tout le monde, ce qui ne l'empêche pas d'avoir sa pensée à lui, mais voilà, il n'est, comment dire, c'est si peu un homme engagé que les existentialistes vont un peu le jeter par-dessus bord. Il le trouve trop classique, trop distant, peut-être trop lucide, parce qu'il y a chez Valéry une façon de passer au rayon X, les événements, la société qui l'entoure, qui est vraiment extraordinaire.
Quand il est jeune, il a deux amis, Pierre-Louis et André Gide. Vous pouvez dire quelques mots, pas d'André Gide, mais de Pierre-Louis, parce qu'il est un peu tombé dans l'oubli. Ils vont se fâcher.
Pierre-Louis était une grande personnalité à son époque, n'est-ce pas? Et dans la fameuse triade, trio qui était Gide, Pierre-Louis et Valéry, dans la jeunesse avant 1914, Pierre-Louis est la grande personnalité. Il a fait les chansons de Bilitis, il est l'auteur de romans ou de poésie à succès, et il y a une vraie amitié, puisque Valéry rencontre à Montpellier Pierre-Louis.
Pour les 600 ans de l'université de Montpellier.
Voilà, et il reste en correspondance. Pierre-Louis l'introduit dans les milieux littéraires de l'époque. Et ce que Valéry n'a pas pigé, c'est que Pierre-Louis est un pornographe.
On va le découvrir, d'ailleurs, plutôt.
Pierre-Louis est un pornographe, comme on va le découvrir après sa mort, où il prenait en photo de jeunes adolescentes chez lui. Et il était assez. Je ne vais pas oser citer.
Page 33.
C'est vrai qu'il a fait La femme et le pantin. Alors, La femme et le pantin, c'est devenu un film, etc.
Il mettait sa sexualité en fiche, c'est ça, en fiche.
Il mettait sa sexualité
en anthropomorphique. En fiche,
catalogue chronologique et descriptif des femmes avec qui j'ai couché. Manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation, trophée des vulves légendaires. Enfin bref, c'était un peu un collecteur maniaque de photos érotiques et qu'il d'ailleurs prenait lui-même. Bref, le plus drôle, c'est que personne ne savait et que quand il est mort, il a eu, non pas des funérailles officielles, mais Anatole de Monzy, qui était le ministre de l'Éducation, était présent à ses obsèques. C'est après qu'on a découvert Pierre-Louis, qui est d'ailleurs un peu mal fini, il est devenu un peu obèse, alité.
Et puis surtout très atrabilaire.
Et atrabilaire, voilà, et il y a eu une sorte de brouille entre...
Mais Valérie dit qu'il lui doit quelque chose, il lui dit, il dit de Louis que c'est... il lui doit beaucoup, quoi, voilà.
Alors, Gide, Paul Valéry a toujours dit, jusqu'à la fin de sa vie, que Pierre-Louis avait joué un rôle crucial.
Et Gide, auteur considérable, s'il en est, pour toute cette époque, vous dites qu'il n'en menait pas large devant son ami Paul Valéry. Vous dites qu'il faisait un petit complexe, sans doute.
Gide trouvait Valéry trop intelligent. Ça le fatiguait.
ça le fatiguait tellement qu'il dit que son cerveau l'empêche d'aimer, d'être heureux.
Oui. Mais vous savez... Là, d'abord, Valéry est né à la même année que Proust. Il avait découvert un texte de la NRF, 1922, après la mort de Proust, où il y a un article de Valéry qui dit, au fond, il y a deux auteurs dont je peux être sûr qu'ils resteront longtemps, c'est Valéry et Proust. Il les met dans le... Alors qu'ils étaient très opposés, n'est-ce pas ? Albert Thibaudet, dans le même numéro de la revue, dit la même chose. Donc, autant... Enfin, c'est bizarre parce que Valéry n'aimait pas beaucoup Proust. Il l'a peu lu, d'ailleurs. Il trouvait que c'était des histoires de marquises, de duchesses. Ça l'intéressait pas beaucoup. D'où l'expression « la marquise sortie à 5 heures ».
Pourquoi sortie
qui résume un peu pour lui l'arbitraire du roman, la gratuité du roman et l'insignifiance du roman. La marquise sortie à 5 heures. Pourquoi 5 heures et pas 7 heures pourquoi une marquise? En quoi ça nous intéresse? Enfin, voilà. Et pourtant... Proust et Valéry, je crois, ne se sont pas connus personnellement. Mais enfin, Gide et d'autres les mettaient sur le même plan, c'est-à-dire sur, comment dirais-je, sur un plan très élevé, si vous voulez, dans la création littéraire. Sauf que Valéry, au fond, sans faire de la politique, avait une attention aux événements historiques que Proust n'avait pas vraiment, voilà...
Alors que Gide était quand même une figure de l'intellectuel engagé.
Ah bah oui, alors Gide n'était pas un spectateur dégagé. Gide était un spectateur engagé avec beaucoup de courage. Il faut dire que Gide a eu beaucoup de courage dans sa dénonciation d'abord du colonialisme en Afrique noire et surtout
et de Moscou,
dans sa dénonciation du stalinisme. C'est tout de même extraordinaire que en 1936, il est invité par Staline. Il est un personnage considérable avec Romain Rolland, Barbus. Enfin, ça fait partie des plus que des compagnons de route, des grandes figures du Parti communiste, de l'Union soviétique, etc. Il est donc, il assiste aux obsèques de Gorki. Il est sur le mausolée à côté de Staline. Il rentre en France et il publie Retour de l'URSS, qui est une description terrible. De pas de l'oppression, mais enfin d'une société grise, surveillée, policière, conformiste, et il subit des attaques terribles, disons, des progressistes, des communisants de l'époque. Rappelons-nous que c'est la guerre d'Espagne, etc. Et Malraux considère que Gide a trahi. Et Gide, attaqué, va en quelque sorte doubler la mise par un retouche à mon retour du RSS, par un deuxième livre où là, il mange le morceau, n'est-ce pas? Donc là, il s'est fait insulter, n'est-ce pas? Il a été vraiment persécuté, insulté, considéré comme un renégat. Non, vraiment, c'était
alors,
quelqu'un de...
Valéry s'est fait aussi insulter.
Je précise tout de suite que retour du RSS a été tiré et vendu à 80 000 exemplaires. Ce qui peut dire à quel point la chose littéraire à l'époque, parce que c'est même un livre d'écrivain, comment, disons, le rayonnement du Gide et le poids que sa parole avait, que Valéry n'a jamais eu. Valéry est l'homme des petits tirages.
Oui, voilà. Alors, justement,
et qui se flatte d'avoir des petits tirages. Exactement. Il n'aime pas la quantité.
C'est ça.
Il aime la qualité. Alors, il pense que l'Europe, c'est la qualité, et l'Amérique, la quantité.
Alors, ça va d'ailleurs lui poser des problèmes parfois de subsistance, matériel. Mais il a été aussi critiqué, moqué. Un qui a la dent très dure avec lui, c'est Paul Léoto. Vous citez dans votre ouvrage une recension d'une lecture dans un salon de Valéry, devant un public, c'est assez étonnant. Et Léoto, qui était assez ami avec lui quand ils étaient jeunes, se moque de lui en disant, mais finalement, il le traite de farceur à la fin. Il dit, mais t'es devenu un farceur, vous êtes devenu un farceur.
C'est-à-dire que Valéry avait des problèmes d'argent. Il avait des problèmes de fin de mois. D'abord, parce que ses livres ne se vendaient pas beaucoup. Donc, il en faisait des éditions de luxe. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a fait beaucoup de textes de circonstances, de préfaces, etc. Et il a eu le bonheur de rencontrer des femmes mécènes, parce qu'à l'époque, le mécénat se pratiquait. Et les grandes dames de la haute société, comment dirais-je, finançaient des revues, payaient des conférences. Et certains se sont élevés contre la façon dont Valéry un peu profitait de ces dames, cumulait toutes sortes de mandats ou de présidences. Et Valérie emploie cette expression souvent, le spectre du pognon absent. Mmh. Il a le spectre du pognon absent, que nous avons tous plus ou moins. Lui n'avait pas, il a tout de même été membre de l'Académie française. Un académicien ne meurt pas dans la misère.
Et au Collège de France, on n'est pas ruiné quand même. Non.
Le Collège de France n'est pas ruiné. Il y arrive tard. Hein,
37.
37, hein. Et puis. Bon. Mais enfin, voilà. Donc, c'est vrai que Valérie a été moquée, disons, par une certaine bohème littéraire, par ses fréquentations, par. Les dîners au Quai d'Orsay, et Paul Léoto moque un peu le personnage officiel.
Il dit ce que Valéry aurait rigolé si on lui avait prédit cet avenir au temps des belles soirées de notre jeunesse. Il est devenu farceur tout comme un autre. Ça, c'est page 67 de votre livre.
Non, il est devenu le Bossuet de la Troisième République. Ouais, ouais. C'est Valéry qui s'appelle ainsi. Je suis le Bossuet de la Troisième République. Ça, c'est le personnage. Je dirais exotérique, c'est le personnage officiel.
Mais j'ai retrouvé dans le journal littéraire du 23 juillet 48, trois ans après la mort de Valéry, un texte de Léoto qu'il poursuivait donc de sa vindicte jusque dans le cimetière marin. Valéry n'est pas du tout un grand écrivain, c'est un précieux, un faiseur de pathos, faussant souvent le sens des mots. Un grand écrivain est celui qui prend dans la vie la matière de ses écrits. C'est d'ailleurs la différence avec Proust. Vous dites Proust était tout le temps avec les marquises, etc. Mais il en tirait les éléments de ses romans. Celle de Valéry est toute artificielle, toute fabrication est souvent pénible. Donc, Léoto est réputé pour avoir eu la dent dure, en gros, avec tout le monde. Mais là, quand même...
Oui, c'était un thème fréquent dans la presse. Quelqu'un disait, puisque Valéry est traduit en hollandais, en russe et en bantou, il faudrait le traduire en français. Bon, il a eu toujours des colibettes. En fait, sa prose est extrêmement classique et lisible. Elle est même.
Alors, je voudrais que nous parliez de cette
poésie. Sa poésie est parfois, il le disait, malarméenne, plus travaillée. Ouais. Encore que le cimetière marin, c'est tout de même un magnifique poème, n'est-ce pas ?
Et dans l'œuvre de Valéry, il y a ce livre particulier qui en fait constitue le début d'un, enfin un texte où il va y en avoir 8 autres. Ça s'appelle donc Monsieur Test, et ce livre, ce premier texte donc sort en 1896. Et c'est, d'ailleurs, vous dites vous-même, c'est un paradoxe. La nuit de Gênes fait qu'il ne veut plus écrire, et puis ça va produire un des plus beaux textes de la littérature. Alors, expliquez-nous ce que c'est que cette suite de Monsieur Test. Là.
Monsieur Test est un personnage fictif inventé par Valéry, mais tout le monde va croire que c'est le double de Valéry, ou son pseudonyme. Monsieur Test est un homme doué pour la littérature, mais qui refuse de faire de la littérature parce qu'il est passionné... d'arithmétique, d'abstraction, de rigueur.
De CQFD, comme vous dites.
De CQFD. Et donc, il renonce à la frivolité, à la vanité littéraire, à l'indécision, à l'imprécision des mots, n'est-ce pas ? Et donc, c'est un ascète. C'est un ascète qui vit, dans une obscurité délibérée. Et Valéry a beaucoup d'admiration pour ce personnage vraiment extraordinaire. Et les gens, et finalement, ce texte qui un peu se moque de la littérature va devenir l'entrée glorieuse de Valéry dans la littérature. Les surréalistes en particulier, les surréalistes vont considérer que Valéry est l'un des leurs, n'est-ce pas ? Qui refuse, les conventions, les frivolités littéraires. Et en fait, ils vont se brouiller ensuite. Mais donc, c'est vous dire que Valéry est un personnage un peu complexe, quoi. Parce qu'en fait, en refusant d'être un littérateur à travers Monsieur Test, il va devenir un homme de lettres, et un homme de lettres encensé par tout le monde.
Dans les nombreux aphorismes que vous citez là, dans le chapitre L'emmerdeur patenté, c'est là où il y a des extraits, enfin un passage sur les historiens, les profs de philo, les séliniens, les libéraux, les juristes, les vieux écrivains, les gens fiers de penser ce qu'ils pensent, les experts officiels. Il y en a un que j'ai retenu parce que je le trouve tout à fait étonnant et je trouve qu'il dit très bien la démarche intellectuelle de Valéry, mais je voudrais que vous nous en disiez un peu plus. Le loup dépend de l'agneau qui dépend de l'herbe. L'herbe est relativement positivement défendue par le loup. Le carnivore protège les herbes.
Oui, ça
vous dites que c'est contre les âmes tendres.
C'est les paradoxes de Valéry, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le retournement du bien en mal, du mal en bien, qui faisait de Valéry une sorte de sceptique. Alors que si vous vous lancez dans les aphorismes de Valéry, deux choses menacent le monde, l'ordre et le désordre. C'est très bien vu. Ça peut se traduire en termes politiques, la gauche et la droite, si vous voulez. Ou encore, il dit, dans un homme, dans un parti, l'homme qui a le plus d'esprit sera le moins homme de parti. C'est-à-dire, plus on a d'esprit, moins on est un homme de parti, dit-il.
Vous qui avez eu l'occasion...
Il appelait les mauvaises pensées.
Oui, vous qui avez eu l'occasion d'échanger évidemment de nombreuses fois avec François Mitterrand. Qu'est-ce que François Mitterrand aimait Valéry ? Il vous en avait parlé ?
Je ne crois pas, non.
Vous ne croyez pas qu'il aimait ?
Je ne crois pas qu'il l'aimait, mais on parlait de Malraux, de Stendhal, de ses habits à lui plutôt, mais je crois pas de Valéry, non.
Ouais.
Je pense que Valéry devait être un peu abstrait, un peu hautain, un peu ça qu'il y avait chez Mitterrand, un amour du terroir, du local, du charnel, enfin.
Du chardonne.
Chardonne, voilà, c'était plutôt son tempérament. Personne n'est parfait.
On va terminer en retour sur la question européenne, parce qu'elle est vraiment tout à fait intéressante. Vous dites, effectivement, on a commencé notre échange sur cet aspect de Valéry, unanimement reconnu avec des amis Rilke, Zweig. Il propose même, ça c'est tout à fait fort, moi je l'ai appris en vous écoutant et en vous lisant, il propose même au Collège de France d'accueillir Albert Einstein, oui. En 1933. Oui. Le directeur du Figaro de l'époque, qui s'appelle François Coty, a des propos immondes à cette occasion-là, en disant on va pas faire accueillir quelqu'un qui s'estime persécuté par son pays d'origine. Bon. Mais
on ne peut pas accueillir un Israélite qui veut se faire passer pour persécuté et qui est l'auteur d'une science inexplicable ou obscure.
Alors, pour autant, quand même, si on peut considérer que c'est un grand Européen, c'est peut-être de fait la cause qu'il a véritablement épousée de manière très, très concrète, comment se fait-il, pour vous peut-être, est-ce que c'est un sujet d'interrogation, il n'a pas eu la préscience que les traités de Versailles, le diktat de Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Sceaux, etc., tout ce que ça avait provoqué de bouleversements dans les deux grands empires détruits, la Prusse et l'Autriche-Hongrie, étaient porteurs du deuxième round, si je puis dire, à partir de 39, parce qu'on l'aurait plutôt attendu du côté des premiers fondateurs de l'Europe, de Rougemont, etc., ou Cohen-Tanugis, etc., ou...
Écoutez, il a compris, je dirais, que l'Europe allait être écrasée, disloquée dès les années 37-38. Hein. Il écrit à Victoria Ocampo, parce qu'il pensait que l'Argentine, il pensait que l'Amérique latine pouvait être un refuge pour l'Europe. Et il dit à son ami Victoria Ocampo, qui était une grande dame argentine, un peu la marraine de la littérature argentine. Il lui demande de recueillir les restes d'une civilisation qui va être détruite par un fou. Valérie, si vous voulez, d'abord, vous parlez de l'Europe. J'ai envie de vous dire quelle Europe. Valérie devient européen en 1919, comme tout le monde, si j'ose dire. Après un grand massacre, après une grande guerre civile européenne, il y a une aspiration partagée, qu'on retrouvera la même en 1945, d'ailleurs, une sorte de réaction instinctive, fini la guerre, vive la paix, union des peuples, etc. Et Valérie soutient Aristide Briand. Valérie croit qu'il peut se constituer une société des esprits, qui peut influencer, dit-il, les hommes de l'esprit peuvent influencer les hommes de l'événement. Il croit que peut se constituer et va se constituer sous son égide une sorte d'internationale européenne de savants, d'artistes, d'écrivains de tous les pays qui vont échanger dans une commission de coopération intellectuelle de la Société des Nations. Et de fait, je dirais que jamais l'Europe ne s'est aussi bien portée qu'entre 1919 et 1939. C'est une chose que De Gaulle dit d'ailleurs dans les. Il dit jamais l'Europe n'a eu autant de réalité que lorsque les nations se haïssaient. Et il fait allusion à cette période bénie, je trouvais, où se croisaient à Paris, parlant français, aussi bien des Allemands comme ou des Autrichiens comme Stefan Zweig, Hoffmann Stahl, mais aussi Salvador de Madariaga, mais aussi Pirandello, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une sorte de, comment dirais-je, de société européenne des esprits, n'est-ce pas, un dialogue, une conversation européenne qui n'a jamais été aussi forte. Mais c'était une période où l'Européen cultivé parlait français. Et tous ces échanges se parlent en français. Avec Stefan Zweig, parle français.
Oui, bien sûr, il traduit. Mais...
Alors, c'est vrai que vous savez, le mot Europe, c'est un mot un peu sédimenté, sédimentaire. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs Europes superposées. Si vous, depuis 1919, depuis, prenons la crise de l'esprit, ce fameux texte de Valéry, nous autres civilisations, il y a eu beaucoup d'Europe. Il y a eu d'abord l'Europe chrétienne, l'Europe de Paul Claudel, l'Europe des cathédrales, l'Europe de la chrétienté. Puis il y a eu l'Europe de l'esprit, qu'on peut dire celle de Valéry, c'est-à-dire l'Europe de la culture. Avec l'idée que la culture, la haute culture, disons, peut neutraliser les antagonismes politiques et créer une sorte de solidarité transfrontière, n'est-ce pas ? Ça, c'est un peu, si vous voulez, la Société des Nations dont il a assumé. Je dirais que Valéry est un fondateur de l'UNESCO. Avant la lettre, même si l'UNESCO naît en 1945, mais c'était un peu son idée. Éducation, culture, patrimoine, échange avec l'Allemagne, vous l'avez dit, il veut faire venir Einstein en France, il est très attaqué par Aspect de la France, il est très attaqué par Maurras. On le traite de rapprocheur franco-allemand, c'était une injure à l'époque. Non, il anticipe sur ça. Mais il y a eu aussi l'Europe de la force, l'Europe hitlérienne, l'Europe de Drieu-La Rochelle. On n'a jamais autant parlé de l'Europe unique entre 40 et 44. On ne s'en souvient pas. Mais il y a eu la forteresse Europe.
Le pan-germanisme, là.
Oui, mais la forteresse Europe n'a pas été vécue tout de suite comme pan-germaniste. Il y a un mot de Drieu-La Rochelle étonnant, qui dit, au fond, moi, je suis genevois, et je crois qu'Hitler va faire l'Europe, comme à Genève, on essayait de la faire. Et Drieu dit quelque chose qui n'est pas si bête. Il dit, pour qu'il y ait une fédération, il faut qu'il y ait un fédérateur. J'aurais préféré que le fédérateur soit français. Mais malheureusement, c'est un Allemand. Mais je préfère encore une Europe fédérée sous hégémonie allemande que pas d'Europe du tout. Et Drieu en 43. Mais en tout cas, il y a eu cette Europe, si vous voulez, raciale, anti-bolchevique, anti-asiatique, l'Europe de la division Charlemagne. Je vous rappelle que dans la division Charlemagne, parce qu'il n'y a pas que le prix Charlemagne, il y a eu la division Charlemagne, il y avait 7000 Français qui défendait l'Europe.
C'était le nom de la division SS.
C'est le nom de la division SS qui a, sur le front russe, intégré l'armée nazie avec Doriot. Voilà. Et puis, il y a eu, je dirais, l'Europe d'aujourd'hui, je dirais l'Europe de la monnaie, l'Europe du management, l'Europe comptable. Et c'est pas du tout les mêmes Europes. Et Valérie a peut-être eu, je dirais, il a peut-être rêvé, même fabriqué, en un sens, l'Europe européenne. Parce qu'il y avait à cette époque, si vous voulez, d'abord, l'Europe était centrale, c'était le cerveau du monde, c'était aussi les plus grandes armées du monde, l'Europe était un peu la tête de l'univers. C'est une métaphore que Valérie emploie souvent. C'est l'Europe qui peut universaliser ses idées, répandre ses idées, ses images. D'ailleurs, Valérie définit très bien ce qu'est une civilisation. Il dit les civilisations supérieures, c'est-à-dire plus fortes que les autres, sont celles qui ont le plus grand pouvoir absorbant et le plus grand pouvoir émissif. Le plus grand pouvoir absorbant, c'est-à-dire qui recueille toutes les diasporas, qui recueille, disons, les personnalités, mais les idées, les images de l'extérieur, de l'étranger, donc qui accueille, et qui, parce qu'elle accueille, émet, c'est-à-dire émissif, c'est-à-dire qu'elle est une civilisation qui rayonne, qui exporte, voilà, ce qu'est devenu les États-Unis. Qui ont aujourd'hui le plus grand pouvoir absorbant, absorbe toutes les élites du monde, et le plus grand pouvoir émissif. Et ça, Valérie l'avait bien compris, et il constatait que cette Europe pouvait jouer ce rôle-là, ce rôle central, et puis, au moment de la guerre, il a compris qu'il y aurait une dépossession de l'Europe qui allait devenir... je ne dis pas une province américaine, mais qui allait devenir, je dirais, plutôt un récepteur qu'un émetteur. Quoi, voilà. Donc il y a vraiment chez Valéry une sorte de sagacité. Cet homme qui n'aimait pas l'histoire est en fait un formidable historien. Et je crois que pour comprendre notre présent, je crois que personne n'a mieux compris notre présent que cet homme qui est mort en 1945.
Un formidable compagnon de route, extrêmement actuel.
Je pense que pour comprendre notre actualité, il faut lire cet homme exact, prémonitoire, un peu sardonique, comme ça, souvent paradoxal, mais qui était un radiographe, si vous voulez, qui passait au rayon X un peu son temps et prévoyant ce qui nous est arrivé.
On va terminer par une citation de vous, hein, Régis Debray, page 173. C'est à côté de notre lanceur d'alerte, on retrouve l'expression que vous avez employée tout à l'heure, ce Valéry transversal, intempestif et inattendu, qui retrouve enfin sa place, celle d'un contemporain capital, à même de nous aider à revenir nous-mêmes contemporain du temps présent, tâche ô combien difficile, et chaque jour à reprendre. Voilà, je pense que c'était un compagnon de route qui nous amène, tout en étant transversal, à emprunter des chemins de traverse.
C'est-à-dire que c'est un homme qui n'est pas dupe, des apparences, des clichés, des idées toutes faites, et donc ça nous déconcerte, on est toujours un peu... déconcerté par les paradoxes de Valéry, qui a aussi, on peut pas nier chez lui, un certain pessimisme. Mais d'abord, il ne fait pas doctrine de son pessimisme.
Non, au contraire. C'est vrai.
D'ailleurs, il a une définition de l'Europe qui est formidable, si je m'en souviens bien. Il dit que l'Europe, c'est la réunion de quatre choses absolument incompatibles. C'est le scepticisme et l'esprit critique, plus la confiance et l'imagination. C'est pas mal, car en fait, il dit qu'il y a peu de pays qui... C'est-à-dire, disons que c'est la réunion de ces vertus, en fait, contradictoires, qui fait l'Europe. Et on peut penser que l'Amérique, puisque pour lui, l'Amérique, c'était la projection de l'Europe, n'a pas pris le scepticisme...
dans le paquet.
Ni l'esprit critique, mais a gardé... la confiance et l'imagination. Et Valéry voulait que ce soit ça le secret de l'esprit européen, cet alliage entre, je dirais, oui, la capacité d'imagination, d'utopie, de projection, avec la distance critique, quoi. Ça, c'est une belle définition de l'Europe, je crois.
Merci, je crois qu'on peut applaudir Régis Debray.